Il est appelé, fait le chemin et il arrive. Il trouve, ne se perd jamais, il sait, il dit, il vivra. La nuit tombe et il voit le présent, le passé, le futur. Quel est son pouvoir, son nom, son histoire ?
Pascal Paradou.
Il n'a pas de nom, il est le fils et il part un jour traverser les collines pour aller au chevet d'un enfant malade, presque cadavre. Ainsi commence le nouveau roman de Cécile Coulon, La langue des choses cachées. Neuvième roman, mystérieux, envoûtant. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Quelles sont les premières images, les premiers mots qui viennent quand vous commencez un roman ?
Alors, les premières images, c'est toujours les mêmes depuis 15 ans. Et c'est le lieu, c'est l'endroit où va se dérouler l'histoire. Et je pense que les mots, ce sont les mots qui seront les meilleurs, les plus précis, les plus brutaux aussi, pour raconter l'endroit. Je commence toujours par un endroit, je ne sais pas faire autrement.
Donc, ce sont des impressions, c'est une géolocalisation, c'est pas forcément un sujet où le lieu induit un sujet.
Alors, je crois que je considère que le lieu devient une scène de théâtre. C'est-à-dire que je me dis, voilà à quoi va ressembler l'endroit où va se dérouler mon histoire. Et à partir de là, cet endroit fonctionne comme une scène sur laquelle les personnages vont être prisonniers et prisonnières du regard des lecteurs et des lectrices. Donc en fait, je pense que mon lieu, c'est lui qui amène l'histoire, plus que l'inverse.
Comment vous le décrivez, ce lieu, le fond du puits, dans ce roman, La langue des choses cachées ?
Alors pour moi, le fond du puits, au départ, l'histoire de ce nom, c'est je suis en Picardie, je vais me promener et on me dit « Ah mais tu vas faire la promenade du fond du puits ». Et je dis « Ah mais qu'est-ce que c'est ?» On me dit « C'est un lieu dit dans le village, autrefois la rivière passait là, depuis c'est devenu le fond du puits ». Et donc je vais faire cette promenade, mais à l'instant où on m'a dit cette phrase, je me suis dit tout de suite, et c'était fulgurant, je me suis dit « il faut que ce soit dans mon prochain roman ». Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, je ne sais pas si ce sera le nom d'une maison ou d'un village. Et à partir de ce nom-là, j'ai imaginé un village qui est l'ensemble des endroits que je connais, des endroits où j'ai grandi, des endroits que j'ai traversés, mais aussi des lieux et des villages qui existent dans la littérature de Marie-Hélène Lafont, de Jean Giono, en fait les auteurs que j'aime, quoi. Et pour moi, le fond du puits, c'est une sorte de hameau entre deux collines. Quand on est dans le hameau, on a l'impression que ces collines sont des montagnes, mais pas du tout. Et puis, c'est un endroit qui voit peu la lumière à cause de ces collines. Et en fait, c'est un endroit où on se dit « personne n'habite encore là ». Et en fait, si.
Il y a une trentaine de maisons.
Oui.
Et quelques habitants.
Tout à fait.
Et est appelé le fils, qui est le personnage principal, ouais, si l'on peut dire, de votre roman. Alors, de lui, on sait peu de choses. Il est jeune, moins joli qu'un enfant, mais plus qu'un adulte. C'est ce que vous écrivez. Et il a un pouvoir qui, là encore, n'est pas tout à fait nommé.
Oui, je crois que le pouvoir de ce fils, enfin ce qu'on appelle son pouvoir, c'est en fait son métier, il est guérisseur. Alors selon les départements où on se trouve, ou les pays, il y a plusieurs noms pour nommer ces personnes-là. Moi, là d'où je viens, on appelle ça des rebouteux et des rebouteuses. Parfois, c'est des magnétiseurs, parfois c'est des coupeurs de feu, des charmeurs de feu aussi. Et en fait, le pouvoir de ce fils, c'est de, quand il est appelé au chevet, que ce soit d'un enfant, d'un adulte ou d'un animal, d'arriver et de soigner, d'ailleurs sans toucher qui que ce soit, et d'être tout à fait à l'écoute, tout à fait attentif à ce qui se passe à la fois dans le corps, mais aussi autour.
En Afrique, on aurait dit qu'il était sorcier.
Sans doute.
Qu'il est sorcier.
Absolument.
Ça
ouais.
peut être un autre nom.
Tout
mais aucun de ces noms-là sont utilisés dans votre roman.
Jamais.
Pourquoi ?
Alors ça a été le grand... ça a été, comment dire, la grande... le grand défi d'écriture, c'était de ne jamais utiliser toutes les mots qui, d'ordinaire, sont utilisés pour expliquer ce qu'ils font. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, selon l'endroit où on se trouve, on ne les nomme pas de la même manière. Et je ne voulais pas qu'on puisse, d'une certaine façon, coller tout de suite sur ce fils tout ce qu'on imagine. Pour moi, il fallait que ce personnage soit, pour les lecteurs et lectrices, une sorte de page blanche. Qu'on se dise « je ne comprends pas tout à fait ce qu'il fait, donc je choisis de le suivre, je choisis de lui faire confiance ou pas. » Mais Je trouve ça intéressant hein, que vous utilisiez le mot de sorcier ou de sorcière, parce que tout de suite, moi, quand j'ai commencé à penser à cette histoire, je me suis dit, est-ce que je considère que ce fils et sa mère sont un sorcier et une sorcière? Et en fait, je n'arrivais pas à utiliser ce mot. Il a fallu que je contourne tous les mots que je connaissais. Ce qui est quand même, quand on écrit des livres, un petit exercice.
Vous dites juste, il connaît la langue des choses cachées, et oui. Ça donne du coup le titre du roman.
Tout à fait. Au départ, ce roman s'appelait Le fond du puits. Ce n'était pas le titre de départ. La langue des choses cachées, c'est une expression qui revient beaucoup dans le texte pour expliquer justement ce qu'il fait, pour contourner justement le langage habituel. Et pour moi, la langue des choses cachées, c'est à la fois cette capacité d'être à l'écoute, d'être dans l'attention plus que dans le langage. Justement, il parle très peu, ce fils, presque jamais. Et c'est aussi la langue qui est utilisée pour raconter ce qui n'est pas audible, ce qui n'est pas racontable. Pour moi, c'est un langage qui est au-delà ou en dessous du langage social, amical, professionnel.
Cécile Coulon, quelle est la place de l'irrationnel, à la fois dans votre vie et dans votre écriture?
C'est une excellente question, on pourra en parler pendant 4 heures.
On n'a
pas le temps, mais je vais essayer de faire court. Alors, dans ma vie, je pense que l'irrationnel, plus je grandis, plus je vieillis, plus l'irrationnel prend de la place. C'est-à-dire que je crois que j'ai d'abord commencé à penser qu'il fallait se détourner de ce qui est irrationnel, faire comme si ça n'existait pas et que ça appartenait à d'autres gens que moi, à d'autres âmes que la mienne. Et puis en fait, si on pose ses yeux et si on pose son âme un peu dans la vie des autres et dans ce qui se passe à l'intérieur de soi, on se rend bien compte d'une part qu'on ne peut pas tout expliquer, d'autre part qu'il ne faut pas tout expliquer, mais que ce n'est pas une raison pour ne pas y croire. Donc ça, c'est une première chose dans ma vie. Et ensuite, dans ce roman-là, je crois qu'au moment de l'écriture de ce texte, moi j'étais dans un moment de vie où je me posais beaucoup de questions sur l'aspect irrationnel de ce qui arrivait ou n'arrivait pas, sur aussi l'aspect irrationnel de ce qu'on appelle la médecine, tout simplement, et le soin à l'autre, et l'apaisement. Donc je crois que c'est une grande partie de ce livre est née dans l'idée que je me fais de ce qui est irrationnel.
Donc en fait, on est dans un monde hyper connecté, hyper urbain, et on est complètement déconnecté.
Tout à fait.
De la nature.
Je crois que plus on est connecté, plus on essaye de donner un langage, du sens, une explication extrêmement rationnelle, extrêmement scientifique à des événements, à des procédés, des processus qui sont très archaïques. D'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand j'ai commencé à faire lire ce texte avant qu'il ne paraisse, on me disait « Ah oui, mais ce que fait ce fils, c'est ce qu'on appelle les soins archaïques. » Comme si ça appartenait à un autre temps, qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Cécile Coulon, la langue des choses cachées, votre livre est assez haletant, puisque le fils arrive dans ce hameau, c'est donc pas un village, c'est un hameau, va voir l'enfant, est appelé par une autre famille, c'est la nuit, c'est une nuit tourmentée. On va raconter la suite peut-être, si vous en êtes d'accord, après Sloane, monstrueuse.
Jamais j'oserais vous apporter la peste, rien que pour mon plaisir, pour la beauté du geste. Jamais j'oserais empoisonner le vin, vous voir devenir bleu, vous écrouler enfin. Jamais j'oserais verser le sang des hommes en guise de représailles, devenir un lion. Jamais j'oserais devenir un cauchemar, une abomination. Le feu au monde, rien que pour se réchauffer. Rassurez-vous.
C'est pas comme si j'avais une fourmilière dans la bouche qui demande qu'à sortir. Hein.
Monstrueuse, titre du premier mini-album de Sloan. C'est un adjectif, Cécile Coulon, que vous côtoyez, que vous choyez, monstrueux, monstrueuse.
Ah, je pense que c'est un adjectif que, oui, auquel je fais très attention, auquel je tiens. Je vous remercie pour le choix de cette chanson parce que je trouve que l'aspect incantatoire de cette chanson est vraiment absolument sublime et parfait, et ce serait une bande son incroyable pour ce texte, quoi. Enfin, je suis très heureuse d'avoir entendu ça là, avec vous, enfin vraiment.
Et remercier Aurel qui a choisi.
Eh ben, merci Aurel
qui a choisi le disque.
Non, mais c'est vrai que l'adjectif monstrueux a quelque chose à la fois de repoussant mais aussi de mystérieux, et je pense que la monstruosité, d'une certaine manière, on en a besoin parce que c'est aussi ce qu'on ne comprend pas mais ce qui nous ressemble, et ce qu'on appelle, on va dire, la dimension monstrueuse de la vie, ou les gens qui le sont, on a toujours l'impression que ce n'est pas soi. Que jamais on osera, pour reprendre ce qu'on vient d'entendre. Et je crois que le jour où c'est nous, où c'est nos proches, où c'est les gens qu'on connaît, où on doit prendre une décision et faire un acte monstrueux, on est toujours très étonné de ce qu'on est capable de faire, dans le pire comme dans le meilleur.
Dans votre roman, il y a quelque chose de monstrueux. Les choses cachées sont monstrueuses.
Les choses cachées sont monstrueuses. Sont monstrueuses aussi parce que comme elles sont cachées, elles sont très souterraines. Elles ne sont pas dites. Plus on les tait, plus elles continuent, plus elles enflent. Donc il y a quelque chose comme ça, d'une sorte d'excroissance, de mensonge, de silence, d'atrocité. Et c'est vrai que l'atrocité, quand elle est fictive ou quand c'est un détail, ce n'est pas grave. Mais moins on la dit, plus elle devient grosse, plus elle prend de la place. Et c'est vrai que dans ce village du fond du puits, tout ce passé du village et un petit peu de ce présent ressemble à une sorte de lieu cauchemardesque. Voilà, c'est de l'ordre du cauchemar aussi.
Et c'est ce que ressent immédiatement le fils quand il arrive, puisqu'il prend la succession de la mère. Mmh. C'est la première fois qu'il a cette mission, avec des guillemets. Il vient soigner cet enfant, il arrive dans ce village et il est immédiatement saisi par tous ces aspects assez monstrueux et cauchemardesques. Oui. Il voit les pendus sous le pont, qui ont peut-être été pendus il y a quelques centaines d'années. Mmh. Il entend le cri des femmes violées. Mmh. Il entend et il voit surtout la monstruosité des hommes qui sont autour de lui.
Oui, quand il arrive, alors il faut quand même noter une chose, c'est que d'habitude il vient toujours avec sa mère, il accompagne sa mère, il est là, il regarde, mais il ne fait pas. Et là, pour la première fois, on lui dit d'y aller seul. Il a 20 ans à peu près, et puis il fait nuit, et ce qui rajoute à son sentiment de cauchemar vivant, c'est qu'il est tout seul. Et il doit faire face à ça, et c'est à lui de trouver les bons mots, c'est à lui de trouver les bons gestes. Et c'est vrai qu'il voit tout ce qui s'est passé, soit au Moyen-Âge, soit il y a deux jours. Et il se rend compte que les familles qui vivent encore là ont chacune leur lot de monstruosité, leur lot d'abomination.
Et il parle.
Et il parle.
Alors que la mère ne parlait pas.
Oui. Et d'ailleurs, quand il arrive et qu'il commence à parler, le peu qu'il dit, et tout de suite, on lui répond « Mais votre mère ne parlait pas, votre mère avait plus d'autorité que vous, votre mère n'avait pas besoin de parler pour être entendue, pour être respectée, vous êtes trop jeune. » En fait, on lui dit ça. On lui dit « On attendait votre mère, et malheureusement, c'est vous qu'on a à sa place. Mince alors !» Et pour moi, ce texte aussi, il y a une deuxième histoire qui commence au moment où ce fils se rend compte que il n'est pas voulu, il n'est pas attendu, et surtout, on a très envie qu'il s'en aille vite, ce fils.
Parlant, est-ce qu'il transgresse ?
Oui, oui. C'est un roman d'apprentissage Et c'est aussi un roman de transgression, de désobéissance, parce qu'au bout de quelques pages, malgré les leçons qu'il a apprises pendant 20 ans, il va tout de suite désobéir à ce que sa mère lui a demandé. Il va tout de suite choisir un autre chemin parce qu'il veut être plus juste, parce qu'il veut être moins monstrueux, justement, moins cruel. Et pour devenir l'adulte qu'il sera en sortant à l'aube de ce village, il faut qu'il transgresse.
Et il faut qu'il parle. Est-ce qu'il faut parler ?
Alors, voilà, là aussi, 4 heures, hein, si on veut. Je pense que... Oh, la réponse, est évidemment, oui. Et en même temps, ça ne veut rien dire. Parce que... Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient que les autres parlent et qui ne cessent d'essayer de les entendre. Donc je crois que surtout, la parole a un pouvoir incroyable, c'est de mettre le pied dans la porte de la violence. C'est-à-dire que dans ce village, par exemple, quand il arrive, ce fils, il se rend compte que tout le monde sait ce qui s'est passé, que personne n'en parle. Or, pour que tout le monde sache, il faut bien que quelqu'un, à un moment, ait dit... Et commencer à mettre ce pied dans la porte en disant « Attention, il m'est arrivé ceci ou il est arrivé cela à quelqu'un. » Et pourtant, ça continue. Donc moi, je crois que la parole, c'est un des actes les plus fondamentaux, mais aussi les plus difficiles. Parce que prendre parole, avoir voix au chapitre, c'est aussi prendre le risque d'être seul. C'est aussi casser un équilibre, même très fragile, même monstrueux. C'est aussi s'éjecter d'une communauté parce qu'on est celui ou celle qui a parlé.
Le nom dit... est central dans votre œuvre, Cécile
Coulon. Tout à fait.
Dans ce roman, j'ai pas lu tous les autres, mais dans certains autres, il
oui,
est central.
Toujours. Ah bah, s'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de littérature. Hein. Non, mais parce que je crois que la vie humaine se construit tellement sur tout ce qu'on ne dit pas aux enfants, aux adolescents, parce que je crois que quand on est dans l'éducation, on se dit il faut préserver les âmes jeunes, novices et innocentes de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est monstrueux. Or, à un moment donné, ça sort. Et ça ressort généralement au pire moment. Et je crois que cette idée qu'il faut absolument mettre en lumière les meilleures parties de l'humain et taire ce qu'il y a de pire, c'est aussi la meilleure manière pour que ça continue. Le silence, c'est un conducteur de violence et de monstruosité absolue. Se taire, c'est continuer à vivre, mais c'est surtout permettre à la violence de continuer à vivre aussi.
Alors, votre roman, Cécile Coulon, raconte cette histoire. C'est un roman initiatique. C'est aussi un roman un peu fantastique. D'ailleurs, il s'affranchit du temps. Vous nous racontez qu'avant la naissance du fils, la mère côtoyait des chevaliers en armes. Vous parlez de châteaux, de forteresses, de princesses emprisonnées. On bascule à la moitié du roman.
Tout à fait. Oui, alors moi ça m'intéressait beaucoup en écrivant, de gommer toutes les traces de temps, qu'en lisant et en écrivant...
On perd pied en fait.
On ne sait pas où on est.
On est sur le chemin et puis tout d'un coup on perd pied.
Oui, je voulais que ce soit un vertige, je voulais que ce soit vertigineux. Qu'on se dise, mais attendez, est-ce que je suis au Moyen-Âge ? Est-ce que je suis dans le futur ? Pourquoi il y a des chevaliers et des rockstars ? Pourquoi il y a des villes qui ont l'air tentaculaires et en même temps on est au fond du puits ? Il me semble que... se débarrasser de tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire de la carte d'identité des personnages, de où on est, quand on est, quelle heure, quel moment, ça permet ensuite de raconter ce qui est fondamental.
Portrait de la mère avec vous, Cécile Coulon, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. C'est un peu ce point de bascule.
La mère portait au poignet des bracelets de plumes séchées, noués par une corde fine. À cette époque, son corps était moins lourd, son cœur moins flétri, elle se déplaçait loin et vite. On l'appelait, et d'où que vienne l'appel, la mère arrivait dans la journée. Parfois, cela tenait du miracle, et quand on lui demandait « comment est-ce possible ?», elle se contentait de hausser les épaules, de fermer les yeux et de remercier ses jambes. La mère était le secret le mieux gardé des hommes. On savait qui elle était, on sentait sa présence avant son entrée dans une maison, on reconnaissait sa silhouette même au bord de routes désertées par la vie. Il n'y avait pourtant pas d'adresse, pas de numéro, pas de boîte, rien. Elle gardait pour elle son nom de famille, elle changeait de bicoque quand les curieux commençaient à s'amasser sur son perron. Dans les cas extrêmes, elle se métamorphosait. Elle étirait ses membres, creusait ou gonflait sa peau, se recouvrait de terre ou de sang frais. La couleur de ses yeux changeait au fil des saisons, celle de ses cheveux attrapait des nuances inconnues et superbes. Parfois, elle se parait d'une beauté renversante, d'autres fois, elle était si hideuse qu'on en perdait la vue. En ce monde, peu d'hommes et de femmes pouvaient l'appeler. Pourtant, elle avait toujours du travail.
Ici. Quelle lectrice, disais-je, avant que le micro ne s'ouvre, la langue des choses cachées. Quand je parlais de fantastique, Cécile Goulon, on y est là.
On est
presque dans l'héroïque fantasy.
On y est presque. Et en même temps, quand moi j'ai construit ce personnage de la mère, je l'ai aussi construit sur toutes les légendes qu'on se fait autour de ce genre de personnage, c'est-à-dire tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on cauchemarde. Ce que je raconte dans cet extrait, c'est ce qu'elle est capable de faire, mais c'est aussi tout ce qu'on l'imagine capable de faire. Et pour moi, dans le fils comme dans la mère, il y a aussi, dans l'écriture, tout ce que les lecteurs, les lectrices peuvent imaginer de renversant autour de ces personnages.
C'est toujours compliqué de nommer une écriture, mais je trouve que la vôtre est très physique. Parce que vous décrivez les corps, parce que vous décrivez aussi la nature. Il y a des bûches dans le feu, des hiboux dans les bois, un volcan qui fume. On marche un peu dans la glaise, on est sur le chemin. C'est votre rapport à l'écriture d'essayer de rendre la matérialité des choses, des impressions, des sensations.
Oui, et avant que ce soit mon rapport à l'écriture, je pense que c'est mon rapport à la lecture, surtout. Pour moi, c'est difficile de parler d'écriture sans parler de ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, c'est souvent la lecture. Et dans mon cas, je crois que ce que j'aime quand je lis, c'est sentir un texte qui colle sous les pieds. C'est-à-dire dont on n'arrive pas à se défaire. On a beau se laver 1000 fois, il y a quelque chose qui reste sur nous, sur nos vêtements, sous nos godasses, du texte qu'on vient de lire. Et je crois qu'en écrivant, j'essaye aussi de faire ça, de dire attention quand on est chez soi, dans son fauteuil, dans le métro ou que sais-je, en train de lire. J'ai envie que les phrases restent, j'ai envie que les personnages soient comme une glue dans la tête des gens qui lisent. Et c'est vrai que je ne sais pas écrire autrement qu'en disant « Veillez bien au paysage, parce que lui veille sur vous ».
Est-ce que ce sont des romans que vous lisez, apparemment oui, mais que vous écrivez des romans de la Terre ?
Ah, bah ça, c'est encore une fois, excellente question, je vous remercie.
Non,
mais je pense que c'est à la fois des romans de la Terre, mais sans que ce soit des romans de terroir. Je crois que c'est des romans qui sont nés dans un terreau qui est celui où je suis née, c'est-à-dire l'Auvergne, hein, à côté de Clermont-Ferrand, mais aussi de toutes ces lectures qui sont... Je parlais de Giono, de Lafont, mais je pourrais parler d'Ursenard ou de Pierre Michon, qui sont des gens qui ont beaucoup écrit sur ce qu'est la Terre, sur ce qu'on lui doit, sur à quel point elle peut nous renverser et pourquoi elle ne le fait pas.
Alors, vous parlez de Marie-Hélène Lafont, et c'est vrai que vous lisant, j'ai pensé à elle. Elle, dont l'univers tourne autour du Cantal, de la ferme familiale, qui évoque souvent la présence physique de la nature et de l'eau. Et d'ailleurs, son dernier roman s'intitule « Les sources », et ce n'est pas un hasard.
Source, ça coule, c'est ouvert. C'est fluide. Moi, je préfère source à racine. J'aime le mot racine parce que j'aime les arbres. Voilà. Ce que je n'aime pas, c'est la connotation un peu rance et cette assignation identitaire, souvent quand même extrêmement fâcheuse, que draine le mot racine dans son riche sillage.
On peut penser aussi à source d'inspiration.
Oui.
Pour un écrivain, ça peut coller, non ?
Oui, si ce n'est que nous arrivons là au mot inspiration. Et je ne souscris pas du tout au mot inspiration.
Ah bon, pourquoi ?
Non. Il a quelque chose d'éthéré qui m'est complètement étranger. Inspiration, vous voyez. Je l'aime seulement pour inspirer, expirer, respirer. Voilà. Sinon, je ne suis jamais inspirée. Je suis débordée de matière à écrire et à travailler.
Cécile Coulon, est-ce que vous avez les mêmes réserves sur ces mots que Marie-Hélène Lafont ?
Je ne serais pas aussi catégorique, mais je suis d'accord sur une chose, c'est que Il est bon d'opposer à l'aspect éthéré du mot inspiration quelque chose qui est sans doute un peu plus physique dans mon cas. Moi, je fais beaucoup de course à pied et on dit à quel point l'inspiration, c'est ce qui aide le corps à avancer, c'est ce qui permet au cœur de se développer et d'être endurant. Et je pense que dans l'écriture, l'inspiration, c'est ça aussi. C'est ce qu'on a en nous et qui nous permet d'être endurant en écrivant.
Vous dites que vous courez beaucoup. C'est vrai que vous avez écrit un éloge du running. Ouais. Et j'ai lu que vous couriez tous les matins 15 km avant de vous mettre à votre table de travail, c'est vrai ?
Alors pour ce livre-là, oui, en fait, je voulais faire comme le romancier japonais Haruki Murakami, qui a écrit ce très beau texte qui s'appelle « Autoportrait de l'auteur », je crois, en coureur de fond, dans lequel il explique comment, en se mettant à courir 10 km par jour, ça a influencé son écriture. Et je me suis dit, bah, je vais tenter l'expérience, moi aussi, pour voir. Et c'est vrai que ça a donné cette espèce de sensation incroyable d'être capable d'aller au bout. Ça a modifié, je crois, le style, ça a modifié le rythme, la foulée du texte s'est calée sur la foulée des jambes. Et ça, je pense que ce livre-là, je l'ai beaucoup plus écrit avec mes pieds. Ouais.
Mais avec votre tête aussi, quand vous courez, est-ce que vous écrivez ? Pendant la course, est-ce que vous pensez à l'écriture ?
Absolument, je pense que je ne pense qu'à ça. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé le moyen d'écrire littéralement en courant. Il faudrait peut-être faire des notes vocales, je ne sais pas. Mais c'est vrai que très souvent, quand je cours, je me dis, mon Dieu, il faut que mon idée reste pour qu'en rentrant, je me jette sur mon ordinateur ou sur mon cahier et que je puisse noter cette idée et que je puisse noter ce paragraphe, quoi. Donc pour moi, là, je crois que le mouvement physique, alors ça peut être la course, mais ça peut être la marche, toute activité sportive ou physique est pour moi un moteur d'écriture intense.
Donc il faut du physique, donc ouais. Il faut de l'action pour écrire. Et l'inspiration, elle est là où elle... Parce que vous avez un parcours d'autrice assez étonnant.
Oui.
Premier roman à 16 ans.
Oui.
Françoise Sagan avait quel âge quand elle a écrit Bonjour
pas
Tristesse?
Pas loin, 17 ans.
17, donc vous battez Françoise Sagan dans un autre genre
d'écriture. Ouais,
dans un
autre genre, ouais.
C'est quand même exceptionnel d'écrire son premier roman et d'être publié à 16 ans, Le voleur de vie. Vous n'aviez même pas le bac.
Je n'avais pas le bac, ouais. J'étais en train de passer mon bac et je m'en souviens très bien. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, je pense, hein, c'est qu'au même titre que des jeunes gens qui regardent, qui en 98 voyaient la Coupe du Monde et voyaient les Français gagner et se sont inscrits dans des clubs de foot en disant je veux faire pareil, et ben moi j'ai lu, à l'époque c'était plus Stephen King, Harry Potter, et je me suis dit je veux faire pareil. C'était un peu une bête imitation d'enfance, mais parfois ça commence là, c'est qu'on aime tellement ce que les autres font qu'on se dit mais si je fais pareil, je pourrais transmettre cette même émotion à d'autres, et c'est incroyable de comprendre ça, et surtout de le comprendre très tôt.
Mais c'est pour cela que vous écrivez, pour transmettre des émotions ?
Oui. Oui.
Pour faire vivre des fantômes, pour faire vivre des lieux.
Je pense que, déjà, j'écris certes pour moi, mais je publie pour les autres. À partir du moment où on publie un livre, on le fait pour les autres, je crois. Et moi, j'essaye de faire en sorte que toutes les émotions, qu'elles soient tiraillantes, brutales ou belles que je ressens à la lecture des textes des autres, je puisse à mon tour les faire ressentir à mes lecteurs. Et pour moi, ça passe par la fiction et ça passe par cette terre dont nous avons parlé.
Et puis ça passe aussi par des émotions assez, assez contrastées. En parallèle de votre écriture et de vos romans, vous avez une page Facebook où on peut lire des textes assez brefs, mais aussi assez sombres. Vous parlez de mort soudaine, de passion aveuglante, de maladie qui troue les corps. Ça, c'est votre dernier texte publié. Tout ça est un peu dark. Est-ce que vous êtes un peu sorcière?
Ah non, je pense pas. J'adorerais, hein. J'adorerais. Mais je crois surtout que pour moi, l'écriture, qu'elle soit en ligne ou sur papier, c'est une manière, et là c'est très personnel, hein, de prendre toutes les angoisses, toutes les peurs et de les mettre sur un support pour que moi je puisse continuer à vivre de manière tout à fait éclatante intérieurement. Il me semble, alors, et encore une fois, en ligne, c'est très rapide et tout le monde peut lire et c'est gratuit et ça permet, voilà, cette transmission extrêmement intense et rapide, quoi. Mais ce qui est dark, et j'adore que vous utilisez ce mot, ce qui est dark, c'est aussi parce que au moment où je l'écris, c'est comme ça que je le ressens.
Mais pas seulement.
Pas seulement. Mais On parlait des non-dits qu'il y a dans mes livres. Et en fait, moi, je ne veux pas être faite de non-dits.
Merci beaucoup, Cécile Coulon. La langue des choses cachées est éditée chez l'Iconoclaste. Pascal Paradou, Aurèle Charlieu, Cécile Lavolo, de Vivois, on se retrouve demain.